Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Jeudi 29 janvier 2026, il est 6h avant minuit. Merci d'écouter l'émission d'info locale de Syllab. Un petit point sur les jeux concours encore aujourd'hui. Deux places offertes pour la release party de Mansion Cellars et Gondawa à l'UBU. C'est organisé par l'asso Goslico le jeudi 5 février dès 20h. Pour jouer, vous avez besoin d'un mot de passe. Le mot de passe, Lafken, est-ce que tu t'en souviens ?
C'est Roman, la pro des mots de passe.
Révisez le son. Le mot de passe, c'est Sangxian, du nom du luth d'origine mongole dont jouent les musiciens de Gondawa. Puis deuxième jeu concours, celui-là, je suis sûre que tu l'as. Deux places en jeu pour la Rennes Boxing Night Galate Box anglaise du Cercle Paul Bert de Rennes. Ça se passe le samedi 14 février à 19h. Salle Colette Besson, mot de passe pour gagner.
Pressing.
Yes, pressing, c'est une technique de combat pour perturber l'activité adverse et prendre le dessus en boxe, bien sûr. Pour jouer et pour gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash de Lafken, écrit collectivement ce soir, il faut bien l'avouer.
Plus 1 sur la liste noire, l'UE s'est accordée aujourd'hui pour désigner les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste, a annoncé la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur X. Les 27 ministres européens réunis aujourd'hui à Bruxelles adoptent des sanctions contre les hauts responsables iraniens impliqués dans la répression meurtrière des manifestations anti-gouvernementales. Hier, la France a affiché son soutien à cette inscription. L'Italie s'était déjà prononcée en ce sens la semaine dernière. De son côté, l'armée iranienne met en garde contre des conséquences risquées après cette désignation. Relance d'un méga projet gazier au Mozambique après 5 ans à l'arrêt. Le géant de l'énergie français Total Energy a annoncé aujourd'hui la reprise de son projet gazier suspendu en 2021 après une attaque djihadiste meurtrière. D'un montant de 20 milliards de dollars, ce projet redémarre malgré une plainte visant Total Energy pour complicité de crimes de guerre, torture et disparition forcée sur le site en question. En octobre dernier, le groupe avait levé l'état de force majeure déclaré en 2021. À terme, ce projet pourrait propulser le Mozambique parmi les grands exportateurs mondiaux de gaz et créer des milliers d'emplois. Sans surprise, le projet de loi de finances pour 2026 a été rejeté d'emblée par le Sénat. Mardi dernier, deux motions de censure ont été repoussées à l'Assemblée nationale, l'une portée par les Insoumis, les écologistes et les députés ultramarins, l'autre par le Rassemblement national et son allié UDR. Au Sénat, la motion de rejet du texte en nouvelle lecture a été adoptée par la majorité de centre-droit, par 203 voix contre 32. Le projet de budget est donc renvoyé une dernière fois à l'Assemblée nationale. Il devrait être adopté dans les prochains jours, après un ultime recours au 49-3 du Premier ministre Sébastien Lecornu. La longue séquence budgétaire touche à sa fin. Le gouvernement assure que la France disposera d'un budget d'ici une dizaine de jours. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Myriam Jaouen, ancienne employée de crèche, est rejugée aujourd'hui pour la mort d'un bébé empoisonné en juin 2022. Les parents du nourrisson ont fait appel devant la cour d'assises de l'Ain afin que l'intention de tuer soit retenue. N'importe qui connaît la dangerosité du desktop, a déclaré la mère de Lisa. Âgée de 11 mois, l'enfant est décédé des suites de brûlures après avoir ingéré du déboucheur pour toilette. L'employé de crèche lui aurait fait avaler le produit pour faire cesser ses pleurs. En première instance, Myriam Jaouen avait été condamnée à 25 ans de prison pour actes de torture et de barbarie. Le verdict est attendu demain. La culture du viol hors de notre code civil. En 2006, le viol conjugal est pénalisé. L'année dernière, la notion de consentement est ajoutée à la définition pénale du viol. Et hier, les députés de l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité pour la fin du devoir conjugal. De quoi s'agit-il exactement, Héloïse ?
Le devoir conjugal, c'est cette croyance que l'on devrait à l'autre des relations sexuelles ou qu'on serait en droit d'en exiger dans le cadre du mariage en particulier et du couple en général. La définition n'est pas de moi, mais de Marie-Charlotte Garin, députée Les Écologistes du Rhône. Aux côtés de l'élu Horizon du Nord, Paul Christophe, elle a écrit une proposition de loi transpartisane pour faire disparaître ce concept du Code civil français. La proposition adoptée hier par la Chambre basse doit maintenant être examinée au Sénat. Sa promulgation est espérée avant l'été.
Comment le texte compte dépoussiérer le code civil, Héloïse ?
C'est avant tout une clarification du droit, Lafken. Dans le code civil, le mariage s'accompagne de quatre devoirs : fidélité, secours, assistance et communauté de vie. En réalité, rien ne dit explicitement que les relations sexuelles font partie de ces obligations. Pourtant, une ancienne jurisprudence assimile communauté de vie à communauté de lit, le fameux devoir conjugal. La nouvelle loi propose de compléter l'article 215 mentionnant cette communauté de vie. Il sera précisé que, je cite, « cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles ». Autre modification, l'article 242 du Code civil consacré au divorce pour faute. Celui-ci mentionne la violation grave ou renouvelée par l'un des conjoints des devoirs et obligations du mariage. Le texte approuvé par l'Assemblée nationale y ajoute que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles.
Ce deuxième article, c'était celui qui avait le plus de conséquences néfastes, notamment sur le droit des femmes.
Effectivement, l'absence ou le refus de relations sexuelles est encore aujourd'hui un argument avancé dans certaines procédures de divorce, le plus souvent en défaveur des épouses. En 2019, un Français obtient le divorce au tort exclusif de sa femme, motif, elle a cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui depuis plusieurs années. Un an plus tard, elle se pourvoit en cassation et perd. L'affaire est alors portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le tribunal condamne la France en janvier 2025. C'est là qu'intervient la proposition de loi pour défendre le consentement, même au sein du mariage, et pour tenter de mieux prévenir les violences sexuelles, dont les viols conjugaux. En laissant subsister dans notre droit un tel devoir, nous avons collectivement cautionné un système de domination, un système de prédation du mari envers son épouse, rappelait hier Marie-Charlotte Garin. Selon elle, nous devons changer la loi pour que plus jamais cette notion ne puisse exister ni dans le droit ni dans les mentalités. La députée ajoute aussi que le mariage ne peut être une bulle où le consentement aux relations sexuelles serait acquis, définitif, à vie. Une régulation plus que nécessaire. Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, les viols au sein des couples représentent près de la moitié des viols rapportés par des femmes majeures à la police ou à la gendarmerie. Et comme le rappelle Paul Christophe, un homme sur quatre en France considère aujourd'hui normal qu'une femme ait un rapport sexuel par devoir et non par envie. C'est notre devoir de leur rappeler qu'ils se trompent, a-t-il expliqué. Et quel meilleur moment pour sensibiliser les époux et leurs invités à la question du consentement que la cérémonie de mariage. Les articles du Code civil y sont clairement énoncés et donc potentiellement les nouvelles règles portées par la proposition de loi.
Merci Héloïse. Socialistes et insoumis ont aussi tenté de supprimer la mention de fidélité des obligations du mariage, mais sans succès. Pour elles et eux, la fidélité représente une continuité du devoir conjugal et un droit de contrôle sur le corps de l'autre. Un service d'urgence sous haute tension. La semaine dernière, une centaine de soignants du CHU de Rennes se sont mobilisés place de la République. Ils et elles dénoncent des conditions de travail insoutenables et un accueil des patients et patientes dégradé. L'hôpital de Rennes a déclenché un plan blanc, comme une trentaine d'établissements en France. Une mesure jugée insuffisante. Selon les syndicats, certains aides-soignants et aides-soignantes doivent s'occuper de jusqu'à 39 patients et patientes en même temps.
Le choix de la vie, le choix des services publics.
La colère se lit sur les visages et les banderoles. Place de la République, à Rennes, l'atmosphère est tendue. Une centaine de soignants du CHU sont rassemblés. Et parmi eux, Stéphane, infirmier anesthésiste, il dénonce les conditions de prise en charge aux urgences.
Il faut arrêter la politique du chiffre, il faut arrêter la politique des baisses de coûts, il faut arrêter de considérer la santé comme quelque chose qui coûte. Il faut arrêter de maltraiter l'hôpital et les soignants, parce qu'en fait, quand on nous maltraite, nous, c'est l'ensemble de la société qu'on maltraite.
Début janvier, deux patients hospitalisés sont décédés sur des brancards dans les couloirs des urgences. Un scandale largement relayé dans les médias. Pour Caroline, aide-soignante, c'était le moment de se mobiliser et de dénoncer les failles du service public de santé.
Mais c'est un ras-le-bol permanent en fait. Ce ras-le-bol, il est installé depuis des années et on s'est rendu compte avec la grève des médecins libéraux que ce système de santé, finalement, c'est bien sur le public qu'il repose. Donc ça suffit de voir les libéraux se gaver avec l'argent de la sécurité sociale. On redonne cet argent de la sécurité sociale au public parce que nous, quand il y a des crises, on est là.
Et parmi la foule déchaînée, quelques Rennais et Rennaises sont venus en soutien au personnel soignant. Pour Philippe, retraité, ce qui se passe au CHU est inquiétant.
Je suis en soutien à la manifestation parce que c'est quelque chose qui m'inquiète. D'abord, avec l'âge, en tant que retraité, ça concerne la santé et c'est la santé de tout le monde, donc tout le monde est concerné. L'austérité, ça suffit, surtout dans ce domaine-là.
Le service des urgences est dimensionné pour 150 passages par jour. Aujourd'hui, il en accueille en moyenne 250. La principale revendication de la manifestation, l'ouverture de 50 lits d'aval, ces lits qui permettent d'hospitaliser les patients après leur passage aux urgences. Mais pour Lionel Le Pagnol, secrétaire général du syndicat CGT, la liste de revendications est bien plus longue.
Et on demande le renfort dans l'équipe d'urgence de 2 infirmières ainsi que de 2 aides-soignantes. Et on demande également à ce que les assistants de régulation médicale, donc c'est le centre 15, c'est eux qui prennent les appels, soient renforcés, qu'on nous donne les moyens de soigner dignement.
Les assistants de régulation médicale reçoivent près de 2000 appels par jour. Et malgré une demande de soins toujours plus forte, 700 lits d'hôpital ont fermé en Ille-et-Vilaine ces 10 dernières années.
Un reportage signé Roman Hubert. Selon l'intersyndicale du CHU de Rennes, la crise ne touche pas seulement les urgences. Les services d'hospitalisation sont saturés, les salles de réveil deviennent des zones d'attente et les équipes des pharmacies, du brancardage, des services techniques et hôteliers sont à bout. Ce n'est pas Willy Wonka, mais bien Alain Ducasse qui s'installe à Rennes. Avec 21 étoiles Michelin, le chef le plus étoilé du monde ouvrira une chocolaterie rue de Nemours à la mi-mars. En 2012, Alain Ducasse avait même été classé 94e personnalité la plus influente à l'international par Forbes. Autre mise à l'honneur, le New York Times a consacré la semaine dernière un article à la cuisine rennaise. Oui, Rennes dans le Times, c'est le restaurant Josie dans la rue de Vasselot qui a séduit le magazine américain. Mais pas d'inquiétude, si les restos étoilés dépassent un peu de votre budget, le marché à manger revient dimanche. Chef, food truck, brasserie, vous trouverez votre bonheur à la criée ou place Honoré Comeruc. Et quand on croit que c'est fini, il y en a encore. Après la gastronomie, place au cinéma. Pour les Césars 2026, 2 films en partie rennais sont en lice. Le premier a été tourné en 2023 à Rennes. Il s'agit de L'Attachement par Karine Tardieu qui s'engage avec 7 nominations. Meilleur acteur, meilleure seconde actrice, meilleure photo, meilleur film. On y suit Sandra, une libraire féministe, et son voisin Alex, veuf et père de 2 enfants. À ses côtés, Amélie et la métaphysique des tubes, coproduit par la rennaise Claire Lacombe, est nommé dans la catégorie du meilleur film d'animation. Adapté du best-seller d'Amélie Nothomb, on y suit les 3 premières années de l'autrice au Japon.
Merci Lafken, décidément quelle ville. On s'illustre dans tous les sujets. Hein.
Une Allez, ville mondiale.
Et oui, la capitale de la Bretagne. Allez, on passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et c'est avec toi, Titouan, ce soir.
Bonjour à toutes et à tous.
Salut.
Dans un monde où tout s'accélère, où tout est chronométré et où on laisse de moins en moins de temps pour l'expérimentation et le fait de divaguer sans but, il nous arrive souvent de nous oublier. Je prends mon exemple personnel et je pense qu'il s'applique à la plupart de nous tous et toutes. Je ne danse plus, ou je ne danse plus assez. Mais heureusement que nos intervenants et intervenantes sont là pour nous faire changer d'avis, avec Virginie Combé, directrice et programmatrice du festival Cinécor, avec son très beau haut rouge orné de doré, ainsi que Rami Al-Khabi, programmateur du festival Raksa, et son œil aguerri et son appareil. Donc, tous les deux, vous avez participé à la programmation de la soirée L'Alphabet et de la Physicalité, qui a lieu ce soir, le 29 janvier, de 20h à 21h30. Est-ce que vous allez bien ?
Mais oui, bonsoir, merci Syllab pour l'invitation.
Bah, grand plaisir.
Bonsoir, merci aussi pour l'invitation.
Bah, c'est toujours un plaisir. Donc pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, chacun de vous respectivement? Pour Virginie, c'est quoi le festival Cinécor? Pour Amy, c'est quoi le festival Raxa? Et finalement, c'est quoi l'alphabet et la physicalité ce soir?
Nous avons concocté cette programmation particulière de films de danse du monde arabe avec Rami El Ravi.
Oui, voilà. Et le festival Raxa aussi, on est un festival qui met l'attention sur les films qui traitent les thématiques du corps et de la danse. Mais la particularité de notre festival, c'est qu'il y a toujours une section dédiée aux films arabes et réalisateurs arabes qui décident de traiter ces sujets. On fait aussi parfois des ateliers et parfois aussi des projections et des collaborations comme avec Virginie et Cinécor.
Ok, bah déjà bravo pour ce que vous faites, c'est super. Et donc, au cours de cette soirée, il y aura 8 documentaires, 8 courts-métrages, si j'ai bien compté, qui vont être projetés. Est-ce que vous pouvez nous les présenter sans en oublier? Non, c'est pas très simple.
Alors, oui, en effet, il y a 8 films qui sont programmés. Alors, on commence par Abshad Hawass, qui est un film de Hadi Moussali, qui est un artiste libanais qui vit en France, qui est un artiste... fashion et film de danse. Donc il vient vraiment d'une œuvre du corps. Et en fait, il a fait un travail qui croise le vocabulaire ballroom voguing. Mm-hmm. Et il a adapté ce vocabulaire à l'alphabet arabe, notamment sur les questions du regard occidental sur les personnes arabes et la gestion chez chacune et chacun d'un regard qui pourrait porter un peu de peur. Qu'est-ce que c'est aussi d'être parlant de langue arabe en France? Donc, en fait, c'est son film qui a donné le titre à cette programmation. Après, on va aller en Égypte avec Belia, qui est un film d'Eman Hussein qui a beaucoup tourné. Eman, c'est une réalisatrice égyptienne qui, en fait, a souhaité découvrir la mécanique et elle a appris auprès d'Oustaz, un artisan au Caire. Et en fait, cet apprentissage qu'elle a fait auprès de lui lui a donné envie de créer un film de danse sur les mouvements du quotidien des mécaniciennes et mécaniciens. Voilà, c'est un film qui a été beaucoup vu et puis c'est un très beau film. Après, on passe à La Poétique du Geste, qui est un film de Selma et Sofia Nouissi, qui sont des artistes tunisiens qu'on connaît aussi pas mal sur la scène internationale et qui travaillent sur les gestes ancestraux avec des femmes potières à Sejdan, qui est une ville de Tunisie. Et en fait, eux, ils s'inspirent des mouvements du travail de ces femmes pour créer une chorégraphie qui en fait, permet à cette gestuelle très précise de passer du geste ancestral au geste contemporain. Et je vais peut-être laisser Rami nous présenter le film Athar.
Oui, donc voilà, donc Athar, c'est un film de Zahra Naber, qui est une réalisatrice libanaise et jordanienne qui a vécu très longtemps au Liban. Et elle a tourné le film au Liban et il traite la relation de l'identité arabe et la relation aussi de nous avec notre corps et avec aussi notre pays, même quand on sera immigré. Et aussi, il traite également le regard occidental et oriental sur l'identité arabe. Donc en fait, c'est un film qu'on peut le comprendre comme on veut, mais ce qui est intéressant avec ce film, et je trouve qu'il est très fort, même si le film il est tourné au Liban, il parle de l'identité en général que plusieurs de mes aussi collègues de ces différents pays ont vécu quand ils ont immigré de leur pays. Cette relation, est-ce qu'on appartient vraiment à notre pays? Est-ce qu'on appartient à où? Comment on nous regarde? La question avec le passeport. Moi, je vais présenter aussi Le Coq de Shadi Younis. Donc, c'est un film aussi c'est un de mes films préférés qu'on a déjà aussi programmé. Donc, ce film est très intéressant parce que il est basé sur un poème qui est un poème écrit par un poète Nizal Ebene, qui est un poète syrien très connu, qui traitait des sujets politiques, qui est aussi relié aussi au corps de la femme et son rôle dans la société. Et le réalisateur, avec la chorégraphe, ils ont décidé d'utiliser la danse baladi ou la danse dite orientale pour traiter ce sujet. Donc sur le coq qui ici, il représente un peu le regard masculin, la masculinité. Et il y a aussi un parallélisme avec la politique de ce qui se passe dans le monde arabe, en Syrie, ou que ce soit au Liban. Et comment ils ont utilisé la danse baladi qui est une représentation féminine pour montrer ce contraste. C'est très très intéressant. On a aussi un clip de Mashrou Alayla, le roman, qui traite aussi le corps féminin, la question du voile, mais d'une façon aussi différente, comme Athar, parce qu'il montre aussi un regard différent sur la liberté de la femme. Il y avait durant ce temps le sujet du voile, porter le voile, est-ce que c'est quelque chose, c'est un choix, ou est-ce que voilà. Et ce film, il montre que les femmes, en portant le voile et en dansant, elles réclament leur liberté, surtout qu'aussi le chanteur et ce groupe, ils sont connus d'être un groupe queer au Liban qui réclame la liberté à notre façon. Et il traite aussi le regard occidental sur l'Orient. Et on a finalement aussi le court-métrage de fiction Warsha de Dany Abder qui traite aussi cette thématique de danse et de liberté où le personnage principal, c'est un réfugié syrien donc qui travaille dans un chantier et à travers son fantasme de danse qui est déclenché par une photo d'une danseuse et chanteuse égyptienne, on voit aussi cette relation avec la liberté et la réalité d'un immigré au Liban syrien.
Ok, bah déjà bravo parce que vous nous avez très bien vendu tout ce qui va se passer ce soir. Donc je pense que tout le monde a compris qu'on se centrait sur le monde arabe. Moi je voudrais essayer de comprendre pourquoi on va précisément dans cette région. Est-ce que c'est lié au contexte actuel? Est-ce que c'est parce que la danse est différente? Enfin, pourquoi cette thématique en termes de géolocalisation?
En fait, Sarah Dessin, elle souhaitait faire une programmation autour du film La poétique du geste de Selma et Sofiane Ouissi. Et on a échangé ensemble je lui ai proposé qu'on fasse une programmation de films de danse sur le monde arabe qui est déjà très dédié, très spécialisé. Mmh. En fait, le fait de programmer des films de danse et de montrer des films de danse, c'est aussi une façon de découvrir des langages chorégraphiques de pays qui sont relativement lointains et dans lesquels il est difficile d'aller voir de la danse de ces pays. Déjà, se produire dans des formes de danse contemporaine, ce n'est pas toujours facile. Pour toutes les questions qu'on peut imaginer. Et donc, faire un film de danse, c'est aussi une façon de faire découvrir son art au plus grand nombre. Voilà pourquoi on les présente.
Oui, je rejoins Virginie. Et pour moi aussi, personnellement, c'est parce que je suis d'origine libanaise. Et dès que j'ai commencé à travailler avec le Festival Raqsa, à faire tout ça, c'est parce que j'ai remarqué que, c'est un genre de film qui est marginalisé dans le monde arabe. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de festival de films de danse. Quand on parle de films de danse, on ne comprend pas c'est quoi. On nous demande c'est quoi. Et aussi, en regardant ce qui se passait ailleurs, en Europe ou en Occident, il n'y avait pas beaucoup de films qui montraient des danses de ce monde, du monde arabe, des danses baladies, du dabke, des danses traditionnelles. Donc on voulait montrer ça. Et chaque fois qu'il y a l'occasion de faire une collaboration pour montrer ce genre de film, bien sûr, je rejoins directement.
On est des vieux compères avec Rami. On s'est rencontrés suite à l'invitation que m'a fait le festival Travelling, qui était sur Beyrouth il y a quelques années. Et donc, on s'est rencontrés pour créer. On a fait une première programmation à Rennes sur Beyrouth dédiée à la création libanaise.
Ok, merci beaucoup. Moi, je tiens à souligner que Raqsa, ça voulait dire une danse en oui, arabe, exactement. Donc ça prend encore plus d'importance finalement. Vous avez parlé, on a commencé déjà à aborder des sujets de féminisme, et comment la danse permet d'aborder des sujets transversaux. Qu'est-ce qui permet la danse, comment elle permet d'aborder ces sujets, mais pas que de la danse, c'est bien plus que ça finalement.
Alors déjà, c'est un art qui ne va pas forcément nécessiter de dialogue, donc de parole frontale. Donc en termes de prise de risque, on peut avoir des formes de mise en scène qui évitent certaines prises de risque frontales et qui permettent d'envoyer des messages peut-être qui peuvent être plus fins, notamment sur ces questions.
Oui, moi je pense que la danse peut toujours aborder des sujets politiques parce que c'est filmer le corps et dans le monde arabe le corps c'est toujours tabou, comment on le filme, on peut aussi parler juste de danse dont je vais parler, c'est la danse baladi ou ce qu'on dit orientale, orientale, la danse orientale vient de l'Occident, on a appelé ça orientale, chez nous ça s'appelle pas orientale et à la base c'était une danse pour raconter une histoire. et au fur et à mesure, ça s'est transformé pour être une danse qui est considérée plus sexy, ou une danse de boîte de nuit ou de cabaret, mais c'est pas le cas. Et je pense par exemple le court-métrage Le Coq, c'est un exemple parfait de comment la danse peut être politique. Il y a aussi Warsha par exemple, dont on a parlé, c'est que c'est un film qui traite le thème de queer, finalement quand il danse, il est habillé comme une danseuse presque orientale et tout ça, et en fait c'est un film qui a pas été censuré, qui a même été montré en Arabie Saoudite, au Qatar et tout, parce qu'à travers la danse et le corps, on peut échapper à cette censure, parce qu'indirectement on parle de ces sujets, donc je pense que filmer le corps finalement c'est politique, et aussi on a la danse, c'est de l'art, donc c'est des films de danse, c'est un autre genre de film qui à mon avis mérite d'être regardé sur grand écran.
C'est super intéressant, parce que moi j'avais noté un point sur ce sujet, les films de danse, sur le fait que, après je ne suis pas expert cinéma, mais j'ai l'impression que c'est une thématique qui ne revient pas en tout cas sur les grands films. En tout cas récemment, il n'y a pas beaucoup de films qui traitent de danse. Est-ce que vous avez une explication, et dans ce cas-là, pourquoi il y a si peu de films connus qui sont sur la danse récemment en tout cas ?
Il y a alors beaucoup de films documentaires qui sont faits sur la danse et qui sortent en salle, qu'on peut voir. Donc, c'est une période assez sympa pour le film documentaire sur la danse.
Si vous avez des recommandations pour nos auditeurs et auditrices.
Pour l'instant, mais je pense qu'à Rennes, il y a des cinémas qui en accueillent assez souvent. Il y a aussi la question peut-être de la comédie musicale qui était créée à un moment donné et qui sont des films qui demandent quand même pas mal de budget. Donc, dans la réalité contemporaine du financement du cinéma, je ne sais pas si c'est vraiment réalisable, donc c'est peut-être une des premières causes du fait qu'on en voit moins. Et des films de danse, les films de danse sont souvent sur les budgets de la danse qui sont en train de s'amenuiser. D'ailleurs, on a beaucoup de chance que le festival de Waterproof continue pouvoir se réaliser. Et moi, j'invite tous les artistes qui font de la danse à penser à réaliser des films de danse et de ne pas oublier de réfléchir à une mise en scène cinématographique pour leur œuvre, parce que en effet, c'est une chance incroyable de diffuser son travail très loin.
Oui, c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais je pense que souvent, les gens confondent danse, spectacle de danse et film de danse, et ils préfèrent peut-être aller voir ça en spectacle, alors que c'est complètement différent. Surtout, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de film de danse. Dans cette programmation, par exemple, il y a différents types de films qu'on peut traiter de films de danse, parce qu'il y a des films de fiction, où il y a des scènes de danse, il y a des films expérimentaux, parfois il y a des documentaires. Mais à mon avis, c'est genre voir la danse sur écran, c'est très différent de voir un spectacle de danse. C'est vraiment une autre expérience, et je pense c'est pour ça qu'il faut de plus en plus essayer de faire de plus de programmation, de soutenir ce genre de cinéma, parce que même en France, il n'y a pas assez de financement pour ce genre de film, que parfois on ne comprend pas exactement c'est quoi. Il y a toujours cette définition de c'est quoi un film de danse. Et je pense qu'il y a plusieurs définitions pour ça. Et nous au moins, avec Araxa et avec Virginie, on essaye toujours de programmer différents types de films qui traitent cette thématique.
Ok, merci beaucoup. Et une petite dernière question. Moi, c'est une question vraiment en tant que personne curieuse. Comme vous êtes en plus deux, comment vous mettez d'accord et comment vous faites le choix des documentaires ? Combien de documentaires vous regardez ? Comment ça se passe finalement ?
Alors, on a un peu nos sujets de prédilection et aussi c'est les rencontres qu'on fait. Il y a certains artistes qu'on connaît l'un et l'autre, donc en fait on programme les œuvres des artistes qu'on connaît, qu'on a rencontrés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je vais peut-être me poser des questions sur le féminisme. Pour les questions queer, c'est Rami dans notre duo, le spécialiste, et on fonctionne ainsi.
Oui, oui, je pense aussi, on discute, on est tous les deux ouverts d'esprit.
Oui,
après,
évidemment.
On fait nos recherches. Et il n'y a pas aussi beaucoup de films qu'on peut trouver, parfois des films libanais, des films palestiniens, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de production. On va regarder, on va discuter et on se met d'accord finalement sur les films pour faire une programmation complète selon les thématiques qu'on recherche ou selon les formes de films qu'on recherche. Mais souvent, on est d'accord, on ne s'est jamais disputé.
On s'entend très bien. C'est vrai. Pas encore.
Peut-être maintenant. Non, c'est pas vrai. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on peut évidemment retrouver l'alphabet et la physicalité ce soir, de 20h à 21h30. Dans quel lieu dans Rennes ?
Au tambour.
Au tambour.
C'est gratuit.
Merci, c'est gratuit. Ouais.
Et moi, j'avais une question pour les personnes qui n'ont pas le temps de vite venir pour 20h au tambour. Est-ce que les films qui sont diffusés ce soir, on peut les voir ailleurs ? c'est vraiment ce soir l'unique chance de les voir. Est-ce qu'ils sont sur Internet, par exemple?
Alors, quand les artistes mettent leurs films sur Internet, ils ne touchent pas de droits. Donc,
ça dépend les plateformes, après.
Ça dépend les plateformes.
Il y a des plateformes de films.
Oui, on est en train de réfléchir, en fait, à une plateforme de films de danse qui permettrait aux artistes d'être rémunérés. C'est en projet. Venez. Et sinon, je pense qu'Internet peut donner quelques indices.
D'accord.
Mais les films entiers, je pense pas. Pas tous, mais je pense que vous pensez.
Il faut vite venir, alors. Vous avez une heure et demie. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Tu restes avec nous, Titouan, parce que c'est l'heure de ta chronique, ta première chronique cinéma. Ça s'appelle le Scooby Scoop. À toi.
Merci beaucoup. Bah, c'est encore moi, du coup. Là, on arrive petit à petit sur la fin du mois de janvier. Donc, tout humblement, j'aimerais vous conseiller trois films que j'ai beaucoup aimés sur ce mois et vous présenter pourquoi. Et le premier film, c'est La Zone d'intérêt par Jonathan Glazer, un cinéaste anglais. J'ai vu tout hier soir, donc il est vraiment très frais dans ma tête.
Oui,
tout à fait. Avec en premier rôle Sandra Hüller, c'est la fille qui joue dans Anatomie d'une chute, qui commence à avoir, mine de rien, une très très belle carrière finalement. Et ce film, pourquoi je l'ai aimé ? Parce que c'est un film qui traite du génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai trouvé ahurissant la façon d'aborder cette tragédie. Souvent, on va penser à montrer des scènes, à faire un film tire-larme, entre guillemets. Et là, c'est l'opposé. On va se mettre du côté oppressif de ce qui s'est passé en mettant une pression constante, 1h40 où on est tendu et pourtant, on ne filme quasi rien. C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on va suivre finalement une famille, la famille du directeur du camp de concentration d'Auschwitz, en les filmant sur des scènes classiques de vie, leur vie à la pêche, entre enfants. Et en fait, au fond, on aura un bruit sonore permanent qui va rappeler que derrière ce mur qui est collé au camp, il y a des atrocités. Et c'est la dualité de on humanise les gens, on raconte leur histoire, mais de l'autre côté, finalement, on entend et on sait ce qui se passe, et ça crée vraiment un truc totalement opposé avec des images qui sont très lumineuses, un film solaire, des fleurs et des cris permanents, des coups de fusil. Ça montre le côté totalement déstructuré de ce qui s'est passé avec des gens qui ont perdu la raison pour l'idéologie, pour n'importe quoi. Et j'ai trouvé ce film absolument magnifique. La réalisation est sublime, tout est parfait. Je conseille.
Tu recommandes alors ?
Amplement.
Ok. Le deuxième.
Le deuxième. C'est 28 ans plus tard de The Bone Temple, la partie 2, qui est bien sûr le deuxième volet de la saga mythique de Danny Boyle et d'Alex Garland. Alors, si jamais, parce que c'est une saga mythique avec Cillian Murphy, dans l'ombre totalement perdu. Ça, c'est le quatrième volet de la saga qui intervient c'est le deuxième de 28 ans plus tard. Et donc, il fait suite directement au film de Danny Boyle sorti l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une suite qui avec les mêmes acteurs, les mêmes scènes, les mêmes décors, mais c'est pas le même réalisateur. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir deux formes de cinéma totalement différentes, avec un Danny Boyle qui va être il va faire du Danny Boyle, il va montrer des scènes, Ce qui est intéressant, c'est la manière de filmer ce film qui a été très, avec un iPhone, un côté très oppressif, quelque chose des grandes scènes, de la nature. Et là, c'est Nia DaCosta, une réalisatrice américaine, qui va reprendre le rôle et sublimer cette saga et s'intégrer dans la saga en ne faisant pas du Danny Boyle, alors que c'est des films qui ont été réalisés de bout en bout. Et là-dessus, ça va être un film beaucoup plus pétillant. Il y aura du body horror, il y aura de la comédie, du drame. Ça va aller dans tous les sens et ça va être... C'est vraiment un cinéma pétillant. Si vous aimez un style de cinéma, vous allez vous y retrouver. Les acteurs sont sublimes. Ralph Fiennes, Jack O'Connell sont parfaits. Et évidemment, dans tous les films de zombies, ce qui est intéressant, c'est que ça ne parle pas de zombies. Ça parle de sexe, ça parle de comment on est embrigadé. Il y a évidemment un parallèle à faire avec la vraie vie, avec la fascisation, tout ce qui se passe dans le monde. C'est rattaché bien plus qu'on le pense à 28 ans plus tard, que je conseille évidemment. Refaites-les tous, ils sont géniaux. Et la fin, la musique, vous allez être émus si vous aimez la saga. Et le dernier film, c'est vraiment mon film du mois, c'est le film Grave de Julia Ducournau. En anglais, c'est Raw, il me semble, avec Garance Marillière et Ella Rumpf. et surtout Rabat, Naït ou Fela, qui sont exceptionnels dans leur rôle respectivement. Et je trouve que c'est un film qui est intéressant pour découvrir le cinéma du Ladoux-Cournot, qui est un cinéma qui dérange, qui est un cinéma qui va piquer, qui va se faire sentir un peu mal, mais qui va surtout créer des émotions, qu'elles soient positives, négatives. Vous allez aimer, vous allez vous détester, mais vous allez être ému. Il se passe un truc dans son cinéma que je trouve absolument génial. Et ce film, c'est le milieu parfait entre une narration qui est plutôt exceptionnelle et le choc, le chaos. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que je pense qu'elle est intéressante de découvrir sur le moment, mais c'est absolument grandiose. Il y a des relations qui sont tissées via une histoire complexe, des relations familiales, amoureuses. Elle pousse tous les curseurs, mais pile au bon niveau pour donner quelque chose de grandiose. La musique est exceptionnelle, je peux que vous conseiller. Voilà, c'est un grand film, et après avoir vu ça, on ne peut plus dire que le cinéma français est mauvais.
Merci beaucoup, Titouan. Plein de films différents en plus, donc on a des choses à voir. J'espère que tu reviendras bientôt.
Ah oui, avec grand plaisir. De
Scooby Scoop.
Scooby Scoop.
Nous, juste avant de se quitter, on va s'écouter le répondeur. On a un répondeur vocal dans 6 heures avant minuit. Est-ce qu'on a un message ce soir? On écoute.
Le téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Eh ben non, pas de message. Laissez-nous un message vocal. Je vous rappelle, le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Faites-nous des retours sur nos interviews, nos reportages. Donnez-nous des idées de sujets, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Et puis aussi, vous pouvez nous souhaiter un bon anniversaire parce que bientôt, c'est les 30 ans de Syllab. Donc, vous pouvez laisser un message sur le répondeur pour dire bon anniversaire à la radio. Merci Laura pour la technique et puis à lundi dans 6 heures avant minuit.
Radio Campus.
J-10 avant les 30 ans de la radio Syllab.
C'est festif.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.